Salut tout le monde, c'est Melvin et bienvenue sur On Papers, le podcast qui parle de handball féminin dans tous ses aspects. Aujourd'hui, je reçois Estelle Nzeminko, avec qui je vais parler d'estime de soi, du regard des autres, mais aussi et surtout d'entrepreneuriat et de la vie box. J'espère que l'épisode vous plaira et je vous souhaite une belle écoute. Est-ce que tu peux te présenter de la manière que tu le souhaites pour les auditeurs et auditrices qui ne te connaissent pas ou même ceux qui te connaissent ?
Ouais, carrément. Alors, je m'appelle Estelle Nzeminko, j'ai 28 ans, je suis... Qu'est-ce que je suis dans un premier temps? Je sais pas, je dirais peut-être joueuse de handball professionnelle. Je suis en équipe de France de handball et je joue depuis 4 ans maintenant en Hongrie. Donc voilà, je suis une joueuse qui vit à l'étranger. Ensuite, je suis tout fraîchement entrepreneuse. J'ai lancé il y a à peu près... Enfin, le projet est né il y a un an et demi, mais j'ai lancé il y a à peu près 6 mois un projet qui s'appelle The V-Box, qui est en fait une box surprise dont le principe est que tous les produits à l'intérieur soient issus à 100% d'entreprises féminines. Voilà. Après, je suis aussi une grande sœur, aînée de ma famille, une petite meuf qui fait sa vie, quoi.
Et puis, anecdotiquement, Estelle est championne d'Europe, championne du monde et vice-championne olympique. Comment est-ce que tu qualifierais ton parcours dans le handball ? Est-ce que tu es plutôt de la famille des gens qui ont eu un cursus plutôt classique ou tu es plutôt du groupe des atypiques ?
Moi, je pense que je suis condamnée, entre guillemets, à faire partie de la famille des atypiques. Ouais, je considère que ma carrière, entre guillemets, est un petit peu atypique parce que déjà, dès le tout début, donc j'ai été professionnelle à 17 ans et j'ai pas suivi. Alors, avant, j'ai été en pôle espoir, donc ce qui fait partie plutôt d'un cursus classique entre 14 et 17 ans. Mais ensuite, j'ai été directement dans un club professionnel, j'ai directement eu un contrat professionnel, donc je suis pas passée par l'étape des centres de formation. Ce qui fait quand même partie, je pense, du parcours un peu typique dans le cursus quand on est jeune handballeuse. Donc, je suis pas passée par cette case-là. Voilà, après, je sais pas, ouais, je dirais quand même plutôt atypique, voilà, le fait d'avoir joué à l'étranger, je considère que je suis quand même arrivée relativement tard en équipe de France aussi. Je suis pas dans les plus tard, mais je suis arrivée à 24 ans, donc, voilà, il y a quelques filles qui étaient là des 17, 18, 19, 20, donc, ouais. Voilà, ouais, je considérerais quand même plutôt mon parcours comme atypique. J'ai fait beaucoup de clubs aussi. Je faisais même pas deux têtes, mais je pense que j'ai fait 6 ou 7 clubs, ce qui est quand même pas mal. Donc voilà, j'ai beaucoup bougé assez jeune, donc voilà, pour mon parcours.
Ok. Et qu'est-ce qui fait que tu as eu envie de bouger à chaque fois comme ça ? Pourquoi tu t'es pas arrêtée, en fait ?
Je pense que ça fait partie de moi. Je me suis posé plusieurs fois aussi la question, forcément. Et puis, tu sais, il y a eu des périodes aussi où... On m'a pas mal jugée aussi par rapport à ça, en disant que voilà, j'étais un peu mercenaire ou que j'avais pas l'amour des clubs. Donc voilà, j'ai eu quelques critiques aussi par rapport à ça. En réalité, moi, je sais expliquer à chaque fois pourquoi je suis partie de tel club. J'ai la bougeotte, ça c'est sûr. J'ai besoin de nouveaux challenges à chaque fois, de nouveaux objectifs, j'aime rencontrer de nouvelles personnes, j'ai besoin de changer d'air souvent, je suis souvent attirée voilà, par ce qu'il y a à l'extérieur. Donc voilà, c'est un peu de tout ça.
Alors, dans le sport, quel est ton rapport à ton corps ?
C'est une bonne question. Faut savoir que j'ai un rapport assez particulier dans le sens où mon corps change beaucoup. Je suis quelqu'un qui est capable de me stabiliser à 60 kilos et en un mois passer à 68, 69 et à revenir à un poids complètement différent. Donc mon corps évolue beaucoup comme tout le monde, je pense, en fonction de mon état d'esprit et de ma vie, tout simplement. Après, je suis forcément un peu exigeante avec mon corps dans le sens où, par rapport à mon jeu, je pense que je suis une joueuse dont pour laquelle le physique joue énormément. Je J'ai tendance à penser que si je suis pas en forme physiquement, handballistiquement, je vaux pas grand-chose. Donc je le sens et c'est je dis ça par expérience de savoir que voilà dans les moments où physiquement j'étais pas là, pas présente, j'ai pas réussi à performer. Donc forcément de l'exigence avec son corps, avec mon corps. Et après, voilà, dans toute la difficulté de garder la forme, de savoir ce qui fait du bien à mon corps, de savoir ce qui est moins bon, d'être tolérant aussi des fois, de se reposer, d'accepter, d'être un peu moins en forme, de progresser, de garder la forme, parce que je pense que j'ai on va dire, des qualités physiques un peu génétiques. Mais ça marche à un moment, mais voilà, ces derniers temps, je me rends bien compte que ça nécessite malgré tout énormément d'attention et d'entretien, quoi.
Comment est-ce que tu appréhendes, ou en tout cas, comment est-ce que tu vis le regard de l'autre, qui est souvent donc un homme, un entraîneur, un préparateur physique? Comment est-ce que tu l'appréhendes? Est-ce que n'y a pas des moments où justement tu peux être toi dans une démarche d'acceptation et au final avoir des retours qui vont pas forcément avec ce que tu pensais?
Ouais, je comprends ce que tu dis. Tu vois, c'est rigolo parce que je suis quelqu'un d'intimement très complexé, mais par contre, j'ai pas j'ai une espèce de barrière autour de mon corps par rapport à ça. J'ai toujours assumé mon corps. J'ai jamais eu de problème par rapport au regard des autres. Après, peut-être que j'ai pas aussi eu en tout cas, dans le sport, les critiques qui m'ont fait me remettre en question par rapport à ça. Mais effectivement, on m'a déjà demandé des fois de perdre du poids, de ces choses-là, et c'était pour la plupart du temps justifié. Donc, tu vois, j'avais pas cette remise en question profonde. Mais c'était souvent lié aussi à mes performances, moins à mon apparence. Donc, ce qui m'a permis, je pense, de vivre les choses un peu plus facilement. Par contre, quand j'étais plus jeune, et on va dire hors contexte sportif, j'étais très très complexée par mon corps parce que je suis métisse et que du coup j'ai des formes, notamment dans le train inférieur, qui font que par exemple, c'est des conneries, tu vois, mais quand j'étais plus jeune et que à l'époque tout le monde portait des jeans slim, pardon, Cheap Monday ou des trucs comme ça, tu vois, et que moi je voulais rentrer là-dedans, c'était mort, quoi. Donc tu vois, à l'époque où on était gamine et que voilà, on commençait à mettre des trucs un peu moulants et tout, je sentais le regard des autres parce que j'avais pas les mêmes formes et ça me complexait vachement. Je me trouvais, je sais pas, pas dans les normes, quoi. Et ça m'a beaucoup complexée. Après, si en fait ça me revient maintenant, ce qui peut me complexer par rapport à mon corps et le sport, c'est que c'est ma dégaine. Parce que tu vois, j'ai l'impression d'avoir des jambes immenses. Bon, j'ai des grandes jambes et j'ai un tout petit tronc. Donc clairement, en fait, quand je me vois en vidéo, j'ai envie de me buter, quoi. J'ai l'impression d'être une espèce de mongole qui sait pas courir et d'avoir une dégaine improbable. Mais voilà. Après, je pense que malgré tout, le fait de faire du sport de haut niveau, donc d'avoir l'habitude de se voir en vidéo, de se regarder, d'être obligé même de parler, de s'exprimer. Je pense que c'est un exercice qui permet au final d'enlever pas mal de complexes.
Tu l'as évoqué en début d'épisode, tu joues à l'étranger, en Hongrie, à Győr, dans le meilleur club européen. Tu es internationale française. Et alors, malgré ce quotidien qui va vraiment à 100 à l'heure et qui sollicite toute ton attention, tu as quand même eu le temps de créer cette box, de donner vie à ton idée. Où est-ce que tu as trouvé le temps de le faire? Avec qui tu travailles? Enfin voilà, comment ça s'est déroulé le lancement en fait de ce projet?
Alors, je pense que ça. Il y a plusieurs choses déjà. Effectivement, quand on est sportif de haut niveau, on n'a pas énormément de temps libre, on va dire. C'est ce que je dis tout le temps. On n'a pas de week-end parce qu'il y a les matchs. On a très très peu de vacances, surtout quand tu es international. Du coup, forcément, avec les stages. Donc, peu de temps libre et des jours à suivre, on va dire. Mais par contre, la vérité, c'est qu'au quotidien, on a quand même vachement de temps. On va pas se mentir. on est sur une moyenne de 2 heures à 4 heures maximum de travail par jour, ce qui représente une ou deux séances de handball par jour. Donc au final, au quotidien, il y a pas mal de temps. Moi, j'ai arrêté mes études à 23 ans, donc 1 an avant de partir à l'étranger. Et en fait, la première chose, c'est que ça me manquait. Ça me manquait de me stimuler intellectuellement. Voilà, je ne peux pas mieux résumer que par ça. Parce que forcément, notre vie est prenante et très stimulante et géniale. Et je me sens chanceuse de pouvoir vivre de ma passion. Mais par contre, et ça fait partie aussi de ma personnalité, j'ai besoin dans mon environnement de me sentir peut-être un peu plus stimulée, utile, engagée, que le quotidien de sportif de haut niveau me propose, on va dire. Donc voilà, ensuite, le deuxième facteur, c'est que j'ai traversé une période personnelle pas hyper cool il y a 1 an et demi. Et plus le fait, je pense, d'être partie à l'étranger, donc au final d'avoir encore moins de... Dans un même contexte de sportif de haut niveau, d'avoir encore moins d'entourage, moins de personnes autour de moi, donc un peu plus de solitude, pas de famille, moins d'amis. Voilà, c'est tout ce contexte-là qui m'a donné envie de me dire, bon, écoute, allez, c'est bon, lance-toi, quoi. Donc, j'ai commencé par avoir l'idée. Et ensuite, j'ai été accompagnée par une agence de conseil et de création d'entreprise pour les sportifs en reconversion, qui s'appelle Mounet et Chifolo, qui m'ont accompagnée dans la mise en place de mon projet, via notamment un business plan, et voilà, qui m'accompagnent toujours d'ailleurs, hein, dans la gestion du projet, des différentes étapes, des différentes parties. Après, je t'avoue que maintenant, du coup, ça fait 1 an et demi. Quand ça a commencé, j'imaginais pas que la charge de travail serait aussi énorme. Tant mieux, parce que peut-être que je ne me serais pas engagée du coup. Donc, j'ai aucun regret. Mais voilà, je pense et je reste persuadée malgré tout que, avec une bonne organisation, c'est possible.
Ok, et du coup, tu parlais de charge de travail. Qu'est-ce que c'est que le travail d'une entrepreneuse au quotidien?
Il y a plein de choses. Ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, donc moi, faut savoir que moi, je considère pas ce projet comme une reconversion. Je considère ça plutôt comme une expérience et comme celles qui, par exemple, font des études à côté de leur carrière de sportif de haut niveau, des études à distance ou qui ont un projet à côté. Qu'est-ce que ça représente? Bah, ça représente beaucoup de choses en fait, parce qu'il y a plein de secteurs. Après, ça dépend forcément des secteurs d'activité, mais dans le mien en tout cas, il y a un peu de tout. Il y a de la communication, il y a du marketing, il y a de la gestion logistique, il y a du démarchage de créatrice, il y a tout l'aspect des réseaux sociaux, les relations clients, les réponses mail. Soit créatrice, enfin, c'est une gestion qui est globale en fait de plein de secteurs d'activité. Pour te donner un exemple un peu plus concret, hier matin j'étais en train de faire du codage pour mon site internet et hier après-midi j'ai appelé des créatrices pour la prochaine box et dans la soirée j'étais en train de faire du montage vidéo, quoi. Voilà.
Donc ça reste hyper varié, c'est hyper cool quand même.
Ouais, bah moi je suis ravie, c'est hyper intéressant, j'apprends plein de choses, je suis curieuse et voilà, je considère vraiment que c'est une chance énorme que de pouvoir toucher un peu à tout, apprendre plein de choses, puis je rencontre des nanas géniales, voilà, je m'inspire, enfin voilà, je me sens vivante quoi, à fond dans ce projet et c'est ça qui me fait vibrer quoi, tu vois. Après, je conseillerais quand même d'être accompagnée pour celles qui veulent se lancer.
Puisque tu habites en Hongrie et que les créatrices de ta box sont toutes françaises, comment est-ce que tu gères la distance? Est-ce que tu les rencontres physiquement à un moment donné? Dans quelle mesure est-ce que tu peux avoir des échantillons, des produits?
Bah, du coup, J'ai un peu changé ma façon de fonctionner parce que j'avoue qu'au début c'était un peu plus, tu vois, relation écrite. Donc voilà. Bon, tu sais, c'est facile hein, maintenant. Hein. Tu t'envoies des
Oui, c'est vrai.
messages, des mails, machin. Enfin, tu vois, les filles ont des catalogues, leur site internet. Donc tu vois, c'est assez simple maintenant que je suis un peu mieux organisée, que j'ai plus de temps et que surtout que je maîtrise mieux ce que je fais. Je passe beaucoup de temps au téléphone. Donc en fait, bah, on s'appelle, on se fait des FaceTime, des Skype, donc on se voit pas physiquement, mais voilà, je pense qu'on est quand même à une ère où tu arrives à créer des relations même de confiance via un échange téléphonique, ou tu vois, c'est marrant parce que j'ai une des créatrices avec qui j'ai travaillé pour la première box qui est devenue... Une nana que j'appelle pratiquement tous les 3 jours, tu vois. On est devenus hyper proches, on se donne des conseils parce qu'elle aussi, elle a lancé sa marque il y a 2 ans et que bah qu'on a plein de trucs à s'apporter l'une et l'autre. Et que, enfin, tu vois, c'est ce genre de rencontre aussi qui donne du sens un peu à tout ce que je fais. Et voilà. Après, en fait, je travaille avec un entrepôt de logistique qui reçoit tous les produits et qui les met en boîte et qui les envoie. Et cet entrepôt est à Paris. Donc en fait, potentiellement, la seule problématique que j'ai du fait d'être à distance, c'est que bah effectivement, c'est quand même plus sympa de rencontrer les créatrices physiquement et que en plus, je pense que, enfin, j'aimerais pouvoir développer du contenu, notamment vidéo, où tu vois, en ayant la possibilité de me déplacer chez les nanas, de pouvoir filmer, tu vois, un peu leur univers. C'est vrai que ça, c'est quelque chose que j'aimerais pouvoir mettre en place, quoi. Mais bon, pourquoi pas à terme.
Si je me rappelle bien, la box sort tous les 2 mois. Et du coup, est-ce que tu peux nous rappeler justement l'intitulé du projet, le contenu de la box et sa singularité en fait?
Donc en fait, c'est une box surprise avec 5 produits full size à l'intérieur. Et la particularité de ces produits, c'est un qui sont uniquement issus d'entreprises féminines. Donc c'est que les produits qui viennent d'entreprises qui ont été fondées par des femmes. La deuxième particularité, c'est que ce sont pas des produits qui viennent d'un univers précis, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de box sur le marché. Par exemple, il y a des box pour les bougies, où tu as des bougies intérieures, des box pour les livres, où tu as des livres, et ainsi de suite, beaucoup de box beauté, make-up, avec voilà, tout ce qui est cosmétique à l'intérieur, et que moi, c'est plutôt une box dont le principe numéro un est que les produits soient issus d'entreprises féminines. Et après, qui est plutôt, on va dire, basé sur la culture en général, avec du design, de la déco, peut y avoir de la littérature, des illustrations, donc plutôt le côté artistique, des produits d'hygiène, des produits de bien-être, mais pas c'est pas une box monocentrée sur un type de produit. Voilà.
C'est plutôt hybride, quoi. Ça, c'est cool.
Exactement.
Alors, tu as créé une box qui est composée exclusivement de produits issus d'entreprises féminines. Donc, j'ai envie de te poser la question suivante. Quel est ton rapport au féminisme?
Alors, forcément, effectivement, je suis obligée d'expliquer ça. Déjà, pourquoi une box? Parce que moi, franchement, quand j'ai à 18 ans, c'est une amie à ma maman qui m'a offert ma première box. Et franchement, ça m'a secouée, quoi. J'ai trouvé ça génial. Le principe, tu vois, de recevoir une surprise, j'ai trouvé ça hyper cool. Par contre, moi, ce qui me dérange, c'est que toutes les box sur le marché qui sont dites pour des femmes sont presque à 100% lié à la beauté en fait. C'est-à-dire que le discours que j'entends, c'est voilà, il y a une box pour les femmes avec des cadeaux, qu'est-ce qu'on va foutre dedans? On va foutre du maquillage et des crèmes anti-cernes, tu vois. Ça m'a un peu agacée, tu vois, et je me suis dit aussi, surtout, je me suis dit, parce qu'après, j'ai pas de problème avec l'hygiène, le bien-être, le make-up, je suis pas une grande fan, mais c'est pas un problème, ça va pas contre mes valeurs ou quoi que ce soit. Et c'est surtout que j'ai vu un potentiel ici en me disant, mais pourquoi pas créer une box en fait vraiment pour les femmes et pour les femmes qui ne sont pas auto-centrées sur leur apparence physique, mais bah, les femmes, les vraies femmes quoi, qui en fait sont intéressées par plein d'autres choses, par la culture, par l'art, par l'hygiène, mais peut-être sur des produits plus éthiques ou plus qui racontent plus d'histoire. Donc voilà pourquoi je me suis concentrée là-dessus. Après, inconsciemment. Pourquoi mettre en avant les entrepreneuses? C'est parce que je pense tout simplement, moi j'ai toujours un petit peu idolâtré ces nanas-là parce que je pense que c'est, si j'avais pas fait de sport, c'est le genre de nana que j'aurais voulu être en fait. Et donc c'est, voilà, pour moi, monter sa boîte, enfin au-delà de monter sa boîte, c'est surtout que moi, la plupart des créatrices que je contacte, c'est des nanas qui ont des histoires un peu qui me touchent dans le sens où, tu vois, qu'on lâchait un petit peu un boulot avec une stabilité financière pour un peu aller affronter la vie et se dire, bon, allez, c'est bon, je vais faire ce que j'aime, quoi. Je vais lancer un produit que j'aime, un produit qui me correspond. Alors, bien sûr, je vais peut-être galérer, mais en fait, je vais me réveiller le matin et en sachant que je vais taffer pour un truc qui me tient à cœur, quoi. C'est vraiment ces nanas-là, au-delà du produit, ces revendications-là et qui mettent du cœur, en fait, dans leurs entreprises, qui m'intéressent.
Et quelle féministe es-tu et comment définis-tu ce terme?
C'est une question que je me pose hyper souvent parce que je trouve qu'elle est dure, cette question, et je pense qu'elle appartient à chacune. Je trouve qu'au début, tu sais que je voulais pas me lancer parce que justement je me disais j'avais peur de me faire tacler un peu par les féministes parce que bah, j'ai ma culture féminisme parce que je m'y intéresse, mais si tu veux, je suis pas une nana calée à 1 milliard % qui connaît toutes les dates, tu vois, toutes les nanas qui sont battues pour toutes les causes, tu vois, je suis pas une encyclopédie du féminisme en fait. Et tu sais, à un moment donné, ça a créé des complexes chez moi en me disant, mais attends, est-ce que je peux revendiquer de faire une boîte féministe alors que, enfin, une box, pardon, féministe alors que, voilà, je suis pas parfaitement calée et tout. Et je pense que, bon, ça, c'est dans la vie en général. Souvent, on se met des barrières pour des choses pour le regard des autres ou pour, tu vois, des espèces de complexes de culture ou, tu vois. Et en fait, d'où ma définition à moi du féminisme qui est tout simplement, en fait, laissez-moi faire ce que je veux, quoi. Et être qui je suis, laissez-moi me revendiquer féministe, même si je ne sais pas la date exacte de ce fait-là ou celui-là. Laissez-moi vivre ma féminité comme je le veux, comme j'en ai envie. Laissez-moi aussi avoir mes côtés girly, laissez-moi avoir mes côtés mec, laissez-moi. Enfin voilà, c'est juste, je pense que le féminisme, pour moi, il appartient à chacun. Parce que je vois des fois voilà des nanas qui se revendiquent féministes mais qui vont juger une meuf parce qu'elle fait ci ou parce qu'elle fait ça, mais justement en fait c'est ça le c'est censé être une communauté solidaire et surtout tolérante en fait pour moi. Et pour moi le féminisme appartient à tout le monde, surtout à partir du moment où voilà, pour moi les hommes sont féministes aussi, même si la plupart considèrent que non parce que le mot féminisme a mauvaise réputation. Bon, moi, c'est ça, ma vision du féminisme, c'est juste, c'est précisément de pouvoir être moi-même sans tout en sortant des codes de la société, en fait, sans que la société ou que les normes n'influencent mon rapport à moi-même, quoi. C'est comme ça que je vois les choses.
Sur la question de l'image, est-ce que le fait d'incarner, mine de rien, le sport français, le handball, à l'échelle européenne, voire mondiale, est-ce que c'est quelque chose que tu prends en compte, c'est quelque chose dans ta conscience et qui a une importance pour toi, notamment pour ce qui est des plus jeunes, en fait?
C'est quelque chose que j'ai en tête, oui, forcément, parce que déjà, c'est en final, les plus jeunes sont la communauté tu vois, qui te le rendent le plus, surtout sur les réseaux sociaux, quoi. Tu vois, qui vont toujours t'envoyer des petits messages d'amour, tu vois, les jeunes filles sont très très démonstratives avec moi sur les réseaux, donc c'est forcément quelque chose qui est très très touchant. Ensuite, je sais pas si tu es au courant de ça, mais j'ai justement fait un camp, lancer un camp de handball féminin. La première édition, c'était l'été dernier, ça s'appelle Les Intrépides. Et du coup, c'était un camp avec 50 petites d'entre 12 et 15 ans autour d'entraînement du handball, mais aussi à travers des modules que j'avais choisis avec le staff, dont la préparation mentale, par exemple. Et franchement, c'était une expérience de malade. En gros, c'était, on a tous les jours, j'avais un groupe de, on séparait les petites. Donc, j'étais avec 8 petites, avec un préparateur mental, et on faisait des séances. Et en fait, bon, c'était vraiment, tu sais, ma première séance de prépa mentale, moi, je l'ai fait en équipe de France au JO à 25 ans. Et je trouvais ça hyper touchant que des petites de entre 12 et 15 ans puissent faire, tu sais, une première approche. C'était pas vraiment de la préparation mentale, c'était une approche plutôt à la préparation mentale, mais ce qui était intéressant, c'était que, voilà, il fallait se lever, s'exprimer, parler de soi. Bon, alors, déjà, je vais commencer par te dire que j'ai fini par chialer, mais toutes les larmes de mon corps à la fin de chaque séance, quoi. Rien que d'en reparler, ça me, vraiment, parce que c'était, en fait, tu te rends compte que, bon, c'est un échantillon de 50 petites, hein, mais voilà, que sur 50 petites, on a 80% qui n'ont pas confiance en elles, qui ne supportent pas le regard des autres, qui ont du mal à s'intégrer par manque de confiance, par timidité, par mal-être avec leur corps, par complexe. 12 et 15 ans, les petites. Hein. Donc tu te dis, tu vois, à cet âge où tu... Bon, c'est aussi l'adolescence ou la préadolescence, donc tu dois aller dans ce processus un peu de d'évolution et de changement et de mille choses aussi dans le corps, tu vois. Mais c'est quand même quelque chose qui, moi, d'un côté me révolte et d'un autre côté me fait dire il faut faire quelque chose, quoi. C'est donc tout ça pour dire que j'essaye de au minimum de véhiculer l'image de quelqu'un de simple et de libre surtout. Donc voilà, après c'est toujours un peu difficile de enfin je trouve de trouver l'équilibre entre bien sûr ce rôle de représentant entre guillemets comme tu dis, dans le sport féminin, donc, ou dans le sport en général, de se dire que bah, y a quand même une espèce de relation à l'image, de gens qui te suivent, qui te regardent, qui s'inspirent, entre guillemets, même si c'est un peu bizarre de dire ça. Et en même temps, toi, ta personnalité, t'es complexe, t'es... Enfin, moi, je suis pas quelqu'un qui aime vraiment se montrer ou quoi que ce soit, tu vois. Donc je me dis toujours que pourquoi je me montrerais plus qu'une autre et puis qu'est-ce que j'ai à raconter de plus intéressant que quelqu'un d'autre, tu vois. Donc bon, c'est toujours, j'essaye toujours de balancer entre les deux, tu vois. C'est pour ça que voilà, j'essaye d'être proche des gens et de rendre tout ce que je peux tout en restant moi-même, tu vois. Voilà.
Et je voulais savoir comment se passe ta gestion de la boxe pendant le confinement. Quand est-ce que t'es prévu la prochaine sortie? Est-ce que tu vas pouvoir l'assurer? Voilà, quel impact ça a sur ton quotidien?
Alors, bah, tu veux, là, bon, pour l'instant, je suis encore dans le mood où je fais comme si tout allait bien se passer, mais en vrai, c'est un peu complexe parce que, bon, moi, j'ai la chance, entre guillemets, que l'entrepôt avec lequel je travaille livre toujours au ralenti, mais bon, voilà, je peux quand même distribuer mes box. Après, du coup, on a retardé un petit peu la sortie de la prochaine. Voilà, mais en tout cas moi j'en profite à fond pour faire toutes les tu vois je multiplie par 10 pour faire bah, tout ce qu'il y a à faire en fait au quotidien et que j'ai pas forcément le temps de faire ou que je prends pas forcément le temps de faire mais là ouais je suis à fond là je travaille tous les jours j'essaie de prendre de l'avance de mieux m'organiser pour arriver à ce fameux point dont on parlait au tout début où t'es bien organisé et du coup tu cours pas après les choses, et ça commence à être un peu plus agréable, tu vois, d'avoir une double vie, quoi. Donc voilà, j'espère pouvoir arriver à ce point-là à la fin du confinement. Mais sinon, voilà, moi, tout va bien, hein. Je suis en sécurité, j'ai la chance, d'être confinée. Quand je pense à tous les gens qui travaillent et qui œuvrent pour que nous, on ait justement cette opportunité d'être confinée. Et en sécurité chez nous, voilà, bon, tout va bien, je suis chanceuse, voilà, tout roule pour moi, quoi.
Pour finir, est-ce qu'il y a un sujet ou une question que tu as à me suggérer pour un nouvel épisode de Hand Papers qui serait en lien avec le handball féminin et tout ce qui va avec? Donc que ce soit la reconversion, je sais pas, la relation entraîneur-entraîné, toutes ces choses-là, quoi.
J'ai pas d'idée précise, mais enfin, moi, tu sais, je suis plus quelqu'un axé sur ouais, la communication et l'humain, tu vois. Je trouve que, enfin, c'est horrible de dire ça, je sais pas si, je sais pas qui écoutera et qui me dira quoi que ce soit, mais tu vois, je trouve que je me demande si on perd pas, en fait, des potentielles bonnes joueuses. De par des fois je trouve que les entraîneurs sont un peu durs quoi quand t'es jeune tu vois je trouve que le système de sélection de notes tu vois ça rentre encore avec le truc de peut-être être un peu atypique mais tu vois j'ai jamais fait tous les j'ai pas fait beaucoup de stages ligue à un moment il y avait des stages pré-nationaux après les stages nationaux machin et je me rappellerai toujours qu'à un moment donné j'avais été prise dans un stage pré-national, je crois. Et ils avaient fait des groupes, là, les trop fortes, les moyennes et les nulles à Yèche, limite classées par numéro, tu vois. Enfin, moi, tu vois, c'est des trucs qui me traumatisent un peu, quoi. Enfin, en fait, j'ai limite l'impression d'avoir... et c'est encore le cas aujourd'hui, mais ça, c'est lié à moi, encore une fois. Et heureusement que tout le monde n'est pas comme ça. Mais tu vois, j'ai l'impression de toujours devoir me battre contre mes complexes, tu vois, contre le regard des autres, quand je suis pas bonne, quand je suis pas en forme, quand, tu vois, limite plus que dans le hand, dans la progression, dans, tu vois, les schémas. J'ai l'impression que mon combat, il est dans la confiance, quoi. Et je pense que c'est quelque chose qui se construit, très jeune, tu vois. Donc, voilà. Après, ma carrière n'est pas dégueulasse, tu vois, mais c'est ça qui est encore plus frustrant, en fait, au final. De se dire que tu vois, j'ai 28 piges et je suis encore là-dedans, quoi. Peut-être t'as l'impression que plus ça va passer, plus tu vas avoir d'expérience et puis plus tu vas avoir bah, plein de choses. Mais tu vois, on a quand même eu des titres, on a eu des. Y a plein de choses qui se passent hyper cool qui donnent de la confiance, tu vois. Mais voilà, je pense que c'est quelque chose que le système en général pourrait mieux entretenir, tu vois. Et je pense qu'il y a. Il y a du potentiel et du génie à aller chercher là-dedans.
J'espère que cet épisode vous a plu. J'ai personnellement appris pas mal de choses et je remercie vraiment Estelle d'avoir participé à ce numéro. Et n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant des commentaires vocaux sur la plateforme Encore ou encore nous envoyer des mails sur onpaperspodcast@gmail.com. Je vous dis à bientôt pour le prochain épisode.